95.7 Kick, Saguenay. Le show du matin. Le show du matin avec Dominique Fortin, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Il est 7h31. Ainsi, le Canadien de Montréal fera dire par l'annonceur maison avant chaque match à domicile que le match se déroule sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Mohawk.
C'est une tangente qui est prise depuis quelques années. Moi, je me rappelle, Simon avait parlé aussi, il était allé couvrir la conférence de presse de Diane Leboutillier.
Oui.
Quand elle était venue dans la région.
Oui.
Et sa, son allocution avait commencé par une reconnaissance de territoire non cédé. Cette fois-là, c'était les Inuits, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Amélie Paul, chef du Parti vert, a commencé ses interventions dans le débat des chefs par reconnaître le territoire non cédé. Cette fois-là, ils étaient à Gatineau.
Oui.
Et là, la question que je me pose, Dom, c'est un... Combien il y en a de territoires non cédés? Sont-ils tous non cédés? Qui habitait là en premier? Est-ce nécessaire de le reconnaître?
Oui, mais une fois que tu l'as reconnu, là, je veux dire, l'objectif de ça, c'est quoi?
Mais c'est ça que
une
je me demande.
Une fois que tu dis, je fais un match de hockey, pas chez nous. OK, la suite, c'est? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Là. La suite, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de ça? Si tu veux établir une marque de respect... D'accord, mais ça m'étonnerait que ça se limite à ça. Parce que si quelqu'un, exemple, prend possession de ma maison et après ça dit « Ah, je présente des, mettons, des matchs de lutte dans une maison qui ne m'appartient pas », c'est sûr que là, je vais dire « Ah, ben les gars, il le reconnaît que ça y appartient pas, fait que je vais le poursuivre. »
Je ne sais pas ce que ça implique.
Moi, c'est la suite qui m'inquiète. Là. Tu veux en venir où avec ça?
Oui, mais encore, puis encore, faut-il que ce soit vrai aussi, là?
Encore faut-il que
comment
ce soit
on fait
vrai?
Pour le prouver que c'est vrai?
Parce qu'on sait qu'un mensonge répété devient une vérité. Et ça, c'est vrai tout le temps.
Puis tu sais, dans le rapport, il y avait vérité et réconciliation. Pas juste réconciliation. Il y a le mot vérité qui est important.
Oh, ouais. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va en parler avec l'historien Éric Bédard, bien connu, qui est en ligne ce matin. Monsieur Bédard, bon matin.
Oui, bonjour, bon matin.
D'abord, est-ce que c'est vrai de prétendre que Montréal est un territoire Mohawk non cédé?
Ben c'est ça, c'est que justement, il y a deux éléments dans ce débat-là. Il y a la vérité du fait, hein, est-ce que en effet Montréal est un territoire Mohawk, et est-ce que c'est bien de faire toute cette reconnaissance avant chaque match? C'est deux enjeux distincts. Je commencerai par le premier, sur la question des du territoire Mohawk. Écoutez, les plus grands spécialistes là, qui se sont prononcés sur la question, dont je ne suis pas, là, je vous parle des Alain Beaulieu, Serge Bouchard notamment, Denis Delage, qui est à l'Université Laval, tous sont très, très sceptiques et disent que la démonstration n'est pas faite que Montréal est un territoire Mohawk. Pourquoi? Écoutez, ce serait long, là, mais je vais faire ça vraiment le plus rapidement possible. C'est que... Quand Jacques Cartier remonte le fleuve pour la première fois jusqu'à Montréal en 1535, il y a un village qui s'appelle Hochelaga, 1500 habitants. C'est à peu près le lieu, le site de, le, du stade de l'Université McGill actuellement, là, au pied du Mont-Royal. Donc, il y a un village là. Et ce village, de ces gens-là appartiennent à une communauté d'Iroquoiens, donc des semi-sédentaires, font un peu d'agriculture, vivent dans une petite ville, dans un petit village. Et donc, il les rencontre. 1603, Samuel de Champlain fait le même voyage. Il n'y a plus personne. Où sont-ils allés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent que c'est à cause des épidémies. Il y en a qui croient que c'est à cause de guerres entre autochtones, entre les autochtones qui vont devenir les alliés des Français, ceux qu'on appelle la coalition laurentienne, les Inuits, les Algonquins, les Etchemins, et les Iroquois du Sud. Donc, une guerre à finir entre ces deux groupes. Et la coalition proche des Français va gagner. Et donc, les Iroquois du Saint-Laurent, qui sont à Montréal, mais qui sont aussi un peu ailleurs, vont soit mourir, soit disparaître, c'est possible, c'est pas à écarter, soit vont se réfugier chez des nations amies, les Anishinabés de l'Outaouais ou les Iroquois du nord des États-Unis dans la région d'Albany. Les Mohawks d'aujourd'hui, en fait, sont les descendants d'Iroquois convertis au christianisme qui sont arrivés après la fondation de Montréal, dans deux petits villages qui existent toujours, Kanawake et Kanasetake, qui ont été fondés par des congrégations religieuses. Donc, eux autres, ces Mohawks-là nous disent, oui, oui, mais nous, on n'est pas juste les descendants des Iroquois de la fin du 17e siècle convertis au christianisme, on est aussi les descendants des habitants d'Hochelaga de 1535, là, ceux qui avaient qui avait rencontré Jacques Cartier. Alors là, à ça répondent les spécialistes. Êtes-vous vraiment certain de ça? Parce que les fouilles archéologiques, ce qu'on a découvert, c'est que ces Iroquois-là, là, de Montréal, ils avaient peut-être pas la même culture que les Iroquois du sud de l'État de New York. C'était, ouais. C'était comme des groupes distincts. Un peu comme si vous dites, les Italiens et les Français, ça fait partie du tronc commun latin. Oui, oui, mais c'est pas pareil, les Latins et les Italiens et les Français. Bon, alors, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que vraiment les Mohawks descendent de ces Iroquois du 16e siècle? Et à ça, les spécialistes répondent pas vraiment. En tout cas, c'est loin d'être certain.
Mais, M. Bédard, mes notions de jouer à risque sont loin. Là, on a tous déjà joué à risque. Là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par non-céder? T'sais, du moment où les Britanniques prennent la conquête, là, ils ont conquis, donc sont techniquement autant conquis que nous autres.
Oui, c'est que les Britanniques, justement, pour un peu acheter la paix, les Britanniques, là, l'épine dans le pied qu'ils avaient par rapport aux Français puis aux Canadiens français de la vallée du Saint-Laurent, c'est que, historiquement, on avait des alliances avec les Autochtones qui étaient très, très fortes, qui étaient fortes aussi au plan militaire. D'ailleurs, les Américains et les Anglais appellent la guerre de la conquête la French and Indian Wars. Ça veut dire que la coalition française avec les Amérindiens était... Et donc, pour un peu, les Anglais ont compris que s'ils voulaient vraiment prendre pied ici et au Canada en général, ils avaient tout intérêt à signer des traités, mais des traités à la manière un peu plus moderne, hein, où on transige, où on s'entend avec des peuples de gré à gré, alors que les Français fonctionnaient pas tout à fait comme ça. Les Français avaient une autre conception du territoire, puis là, on peut en reparler. Les Anglais vont commencer à négocier, à faire des traités avec les Autochtones de façon un peu plus moderne, c'est-à-dire sur le mode de « je te donne ci, tu me donnes ça », et puis des transactions avec une conception plus classique de la propriété. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est après la conquête que les Anglais vont faire un certain nombre de traités. Et c'est sur cette base-là que les Autochtones revendiquent des droits territoriaux.
En gros, les anglophones, les Anglais leur auraient cédé ce territoire-là, mais finalement, ils ne l'auraient jamais obtenu.
Là, je n'ai pas le détail sur ça précisément.
C'est un peu ce qu'on tente de nous dire.
C'est un peu l'idée, exactement. C'est qu'on est dans une logique de traités qui ont été établis après la conquête, essentiellement, à partir de 1760. Et puis, on est dans cette logique-là et il y a des négociations. La question du territoire Mohawk non cédé, je suis très, très surpris que les Canadiens de Montréal, je comprends leur idée, là, c'est dans l'air du temps, bon, on pourra en reparler, mais je comprends pas qu'ils aient pas fait un peu plus de recherche pour voir si c'était fondé de dire ça. Et c'est pas fondé. En tout cas, il n'y a pas du tout consensus là-dessus.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est surtout où ça s'arrête. Parce que ce que je comprends, c'est que les peuples autochtones s'entretuaient entre eux. Donc, est-ce que les Mohawks vont dire, ben après ça, c'est les Iroquois qui vont dire, ben c'est un territoire non cédé à nous. Les Mohawks nous ont chassés de là. Puis après ça, est-ce que les Algonquins vont arriver? Puis après ça, est-ce que les Inuits vont arriver? Ça finira pas plus.
Vous avez un beau cas à Québec. Vous avez à Québec des prétentions des Wendat sur Québec. Les Hurons, mais historiquement, vous allez avoir des Inuits qui vont vous dire, mais pas en tout, les Montagnais, les Inuits, hein, ils vont dire, mais non, Québec, c'était notre zone d'influence au moment de la fondation de 1608. Et puis, si vous parlez avec des Inuits, ils vont vous dire qu'à leurs yeux, Québec, en 1608, ça faisait partie de du grand territoire des Inuits, puis que les Wendat, les Hurons, ben, ils sont arrivés un peu comme des réfugiés politiques qui sont venus demander la protection des Français parce qu'ils venaient d'être massacrés par les Iroquois en 1649-1650. Donc, ils se sont dispersés et il y en a quelques centaines qui sont venus à Québec demander la protection des Français. Ils étaient terrorisés par les Iroquois qui venaient de leur faire une guerre sans merci. Donc, exactement. C'est-à-dire que si une organisation comme le Canadien dit « c'est les Mohawks », puis un autre dit « c'est les Wendat », puis là, c'est parce que vous risquez de monter les Autochtones les uns contre les autres, et ils vont pas être d'accord. Mais ça c'est un sujet, disons, plus pointu sur qui était où et quand. Ça, c'est plus compliqué. Puis dans l'Ouest canadien, les villes ont été fondées très tardivement, par exemple. Donc, de dire « cette ville-là était sur tel territoire », oui, il y a encore quasiment des survivants, je veux dire. C'est tout récent que les villes ont été fondées. Mais dans ouais. le cas du Québec et Montréal, ça fait quasiment 4 siècles. Dans le cas de Montréal, presque 4 siècles, Québec encore plus. Donc, non, c'est beaucoup plus flou et beaucoup moins clair.
J'ai tendance à penser que si on commence à faire le même exercice en Europe, puis dans le nord de l'Afrique, on n'a pas fini.
Oui, en effet. Mais vous avez soulevé une bonne question dans votre introduction. Quelle est la prochaine étape?
Oui.
Moi, ce qui me gêne dans ça, puis Isabelle Haché, dans sa chronique de ce matin, je trouve, elle le soulève bien, là. Elle montre qu'il y a comme un boomerang, là. C'est en train de revenir, là. On commence à voir que ça est allé peut-être un peu loin. C'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, d'abord, le symboliquement, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça, c'est Jean-François Lisée qui me faisait remarquer ça récemment, et je trouvais qu'il avait raison. D'un côté, ça dit, c'est comme si les descendants d'Européens, on dit aux Autochtones, ben, on est sur vos terres, on va y rester, puis c'est comme ça, hein? Bye bye. Donc, c'est fatigant, c'est pas agréable de se faire dire ça si on est autochtone. Donc, on est ici, puis on va y rester, mais on reconnaît que c'est à vous, mais c'est tout, c'est comme ça. Et puis, du côté des descendants d'Européens comme nous, ben, c'est comme si on nous envoyait le message qu'on n'était pas vraiment chez nous.
Fait que c'est pas agréable pour personne.
Ben, c'est ça. Donc, on est uniquement dans la symbolique. On se donne bonne conscience, mais il n'y a pas d'implication. Puis, justement, comme il n'y a pas d'implication, c'est malsain. Il faudrait voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait céder le territoire? Il faut négocier un traité? C'est ça? Il faut payer? Ça veut dire quoi concrètement? Et allons plus loin. Puis évidemment que, tu sais, là, quand il y a des sous, il y a de l'argent en jeu, là, oh, tout à coup, ça ouais. risque de changer. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça malsain. Je trouve que c'est pas la bonne façon de se réconcilier, si on veut réutiliser ce terme.
Mais tu sais, c'est toute la différence. Puis ici, je veux pas impliquer qu'on aurait dû faire ça, mais c'est toute la différence entre être conquis puis faire des accords. Dans le sens où nous, comme francophones, quand on vient pour faire notre place dans le Canada, ben regarde, ferme ta boîte, t'as été conquis, tu fais partie du Canada. Mais quand tu fais des traités, puis des ci, puis des ça, puis des accords, ben ça te rattrape des siècles plus tard.
Oui, en même temps, nous, les Québécois, on vit dans une fédération, on a une autonomie dans plusieurs domaines, on essaie de jouer au maximum les règles pour préserver la plus grande autonomie possible, alors que les Autochtones ont été parqués dans des réserves par une loi, on peut dire, vraiment raciste, une loi de 1876, la loi sur les Indiens. D'ailleurs, j'aimerais ça voir les Autochtones. J'aimerais bien que les Autochtones, aujourd'hui, nous proposent une alternative à la loi sur les Indiens de 1876. Alors, évidemment, ils s'entendent pas là-dessus. C'est ça le problème. C'est une loi, évidemment, c'est une loi qui n'a pas de bon sens quand on y pense, tu sais, créer des réserves, faire des Autochtones des espèces d'enfants, hein, et puis le papa, c'est le gouvernement fédéral qui veille sur eux. C'est paternaliste. Et cette loi-là visait explicitement, je l'ai relue quand j'ai travaillé à la réédition de mon Histoire du Québec pour les nuls, c'est une loi qui visait explicitement l'assimilation des Autochtones à moyen terme. Donc, cette loi-là est toujours plus ou moins meilleure, évidemment, elle a été amendée, mais ça n'a pas de bon sens que ce cadre-là régisse toujours les Autochtones. Ouais. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, concrètement? Si on parle d'autonomie, comment ça se fait concrètement? Le Québec a montré qu'il a déjà fait des pas vers la réconciliation avec la Convention de la Baie James, avec la reconnaissance de René Lévesque de 1985, avec même la paix des braves. On n'a pas de leçon à recevoir, nous, du reste du Canada, là-dessus. On a vraiment, concrètement, fait des choses. On n'est pas parfait, puis on n'a pas une histoire parfaite non plus. Mais moi, c'est ça que j'aurais répondu à la place de François Legault, là, quand il se faisait dire « Oui, mais la fête, c'est la réconciliation. » Moi, j'aurais dit à sa place « Écoutez, nous autres, ça fait depuis les années 70 qu'on est sur le mode de la réconciliation. » C'est ça que j'aurais dit, moi. Puis, il y a eu la crise d'Oka, il y a eu des bévues, c'est pas toujours facile. Mais on a ça à cœur, puis on y travaille.
D'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui veulent en apprendre plus, vous sortez un livre hein, qui est dans toutes les librairies, « Le Québec tournant d'une histoire nationale ». Et justement, votre premier chapitre porte sur l'alliance avec les Autochtones.
Oui, oui. Moi, je suis fasciné par une chose. Si vous comparez l'expérience des Espagnols. Les Espagnols débarquent en Amérique du Sud et puis c'est pas beau. Hein?
C'est un carnage.
C'est vraiment pas beau. Et c'est pas beau parce que les Espagnols sont sur un esprit des croisades. Hein? Les croisades, c'est de chasser les hérétiques, les païens, les convertir de force ou les tuer. C'est ça l'esprit des croisades hein, du Moyen-Âge. Les Espagnols sont encore un peu dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là quand ils arrivent en Amérique du Sud. Au début du 16e siècle. Les Français, eux, quand ils débarquent au début du 17e siècle, sont dans un esprit complètement différent. Pas parce que c'est des meilleurs êtres humains, mais parce qu'ils viennent de vivre les guerres de religion. Ils viennent de vivre des boucheries. Ils viennent de vivre des centaines de milliers de personnes sont mortes dans des situations. Puis là, c'est ton voisin. Puis ça a été épouvantable, les guerres de religion, pour les Français. Et là, arrive sur le trône un roi qui s'appelle Henri IV. Et Henri IV, c'est un homme de réconciliation, c'est un homme de concorde. C'est un homme qui comprend qu'on ne peut pas aller dans cette voie d'affrontement indéfiniment. On va tous y perdre. Donc, c'est ce roi-là qui commandite l'expédition, la première expédition de Samuel Champlain de 1603. Et en 1603, coup de chance, il y a des autochtones à Tadoussac. Il y en a un millier qui s'avère qu'ils fêtent une victoire qu'ils viennent de remporter contre les Iroquois au sud. Et il se passe là une alliance, il se produit là, il se scelle là, une alliance entre les Français et les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent. On va l'appeler la tabagie de Tadoussac. Et donc, la tabagie, là, c'est une fête. Hein? Quand on fume le tabac, c'est qu'on est, on signe une alliance. Mais c'est pas une alliance à la manière des Européens avec du papier, puis on signe, puis ça. C'est une alliance à la manière des Autochtones. On fume le tabac, on s'entend sur des principes. Et ces principes-là, c'est que les Autochtones disent, écoutez, vous êtes les bienvenus ici, mais à une condition, vous allez nous aider à combattre nos ennemis, les Iroquois. Les Français disent OK. Fait que là, les Français disent OK, mais ils sont pris à combattre les Iroquois pendant un siècle. Ça ne sera pas évident toujours. Mais ça se fait dans la fête, dans la bonne humeur, dans la concorde. Donc, notre histoire, là, au Québec, elle commence par une fête et non par un massacre. Je trouve que c'est extraordinaire, il faut le souligner.
Ah, c'est effectivement très différent de tout ce qu'on entend qui vient des universités américaines qui n'ont pas vécu le même genre d'histoire que nous ici au
Exactement.
Québec.
Exactement, puis ça s'explique par un contexte, et je le répète, pas parce que les Français étaient des meilleurs êtres humains, c'est qu'ils étaient dans un moment de leur histoire, ils étaient plus ouverts à ce type d'alliance, et malheureusement, ça va changer au 17e siècle avec Richelieu puis avec Louis XIV qui vont un peu se réduire. Mais Henri IV, c'était vraiment un roi d'ouverture, de concorde. C'est un homme assez exceptionnel. Et Champlain était un disciple d'Henri IV. Il avait des liens privilégiés. Alors, dans le premier chapitre, c'est des petits chapitres, hein, c'est un livre vraiment accessible pour le grand public, mais je raconte ce beau moment de l'histoire du Québec.
Monsieur Bédard, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.
7h49, Éric Bédard. Je pense qu'on a fait le tour de la question de
mais
long
moi, je m'aurais pris encore 2 heures. Mais tu sais, c'est ça. Je le trouve toujours très intéressant.
Mais tu sais, quand tu veux une référence en histoire, Éric Bédard en est une. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Demeure une question entière. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? 7h49, dans un instant, nouvelles réseaux sociaux et on vous présente le portrait de la candidate à la mairie, Jacinthe Vaillancourt. Et on vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, la rue Racine, inaccessible entre Hôtel de Ville et la rue La Fontaine, il y a eu une altercation qui a fait un mort au cours de la nuit dernière. Donc, il y a eu une enquête policière pour l'instant.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. Kick 95.7, Saguenay.